Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
Hey, j'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de Choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de Choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème, retrouvez Le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique.
Choc.ca t'invite à découvrir le cabaret festif de la relève. Volet concours du festif de Baie-Saint-Paul. Un véritable tremplin pour la relève dans lequel 12 finalistes se disputent plus de 15 000 $ en bourse, en prix et en visibilité partout au Québec. Du 6 au 10 mars, rendez-vous au www.lefestif.ca/cabaret pour visionner les performances des 3 finalistes web et voter pour celui que tu voudrais voir en finale. Les cabarets festifs et Choc.ca font la paire pour la relève.
Pour faire le plein de nouveautés musicales, c'est aux Francouvertes que ça se passe. Du 20 février au 8 mai, réservez vos lundis pour découvrir les 21 participants de la cuvée de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Sur scène, 3 artistes ou formations par soirée, en plus d'un invité surprise. Pour tout savoir sur la programmation, visitez francouvertes.com. Cette année, quels seront vos coups de cœur musicaux? Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
What a day! Ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de Choc.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
I put a spell on you.
Votre attention à tous. Aussitôt que le sas sera verrouillé, silence. Jacques et Yula, si quelque chose cloche, prévenez-moi par télépathie.
I want you to get up right now and go to the window, open it, and stick your head out and yell, I'm as mad as hell, and I'm not gonna take this anymore!
Comme ça, Money, tu penses que ton stuff, c'est la grosse affaire?
Laisse-moi te dire une chose, qu'avec ce stuff-là, les petits dits sont mieux de prendre leur trottin.
C'est cet inconscient-là qui est le plus dangereux.
Nice shooting, sir. What's your name?
Murphy. Je suis un fort! Je suis inordure! Frappe! Je suis pourri! Je suis lépreux! Colère! Je suis ne partez pas!
I put a spell on you! Because!
Oh, you're mine. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Au 7e Antiqueur, cette émission cinématographique aux proportions cosmiques. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Michel Berthiaume.
Yes!
Et, Hop là, Jean-Michel est en forme, mais je suis David Fortin qui fait exceptionnellement cette introduction. Et on est en compagnie aussi de Marc Lamotte. Bonjour, Marc.
Bonjour tout le monde. Merci.
Et,
de...
Yay! Et on va vous présenter aujourd'hui une émission vraiment intéressante, très spéciale, qui nous a été proposée par Marc, justement. Et on va tout simplement parler du film Ed de Bob Rafelson, film de 1968, un film rock psychédélique avec les Monkees qui interprètent les rôles principaux. Et tout ça aussi, c'est en parallèle avec un événement qui va avoir lieu ce dimanche à la Cinémathèque québécoise. Donc, il va y avoir une conférence que Marc va donner sur le rock'n'roll et le cinéma, donc le rock'n'roll au cinéma.
Rock'n'roll!
À partir de 17h et dès 19h, en fait, Marc se transforme en DJ XL5 pour présenter un zapping party sur le rock'n'roll au cinéma qui va comprendre plus de 100 extraits de plus de 100 films différents qui va dresser un portrait un peu du rock'n'roll au cinéma. Donc, Marc, merci beaucoup pour la suggestion. C'est pour moi et Jean-Michel, ça fut quand même une très, très, très belle surprise. Et c'est un film qui est parfait pour le 7e antiquaire. Parce que pour les gens, je pense qu'on a eu un peu la même réaction. Sans être nécessairement des fans des Monkees, on s'est dit, pourquoi pas, on va se lancer dans Ed. Et quand on voit Ed, on se rend compte qu'à quel point ça s'adresse pas nécessairement aux fans, disons, de ce que pouvaient être les Monkees dans le temps de la série télé. Mais ça peut aussi fonctionner. Mais c'est surtout un très bel exercice de création qu'a fait Bob Rafelson avec autant la création que la destruction, si on veut.
Oui, voilà.
Des Monkees.
C'est une œuvre de déconstruction autant que c'est une œuvre de création. Et lui, c'est son premier film. Mm. Et c'est un film qui n'a pas d'histoire. Mais c'est très complexe. Écoutez, Ed, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a pris 10 ans avant que je comprenne la joke. C'est un film que j'ai loué une fois en VHS. Je l'ai abandonné après 25-30 minutes. Je comprenais
pas. C'est pas évident.
Puis c'était même agressant. Je l'ai revu à Musique Plus un moment donné en projection le samedi soir. Il présentait des films rock. Mais là non plus, c'est un film qui est difficile d'approche. Puis à un moment donné, j'ai compris, j'ai cliqué. Ce qui fait que je me suis accroché, d'une part, j'aime le groupe de Monkees. Même à l'époque où ils faisaient de la pop qu'on dit préfabriquée, Take the Last Train to Clarksville, I'm Not Your Stepping Stone, I'm a Believer, c'est de la grande pop. Et je sentais qu'il fallait que je fouille Ed parce que j'avais des amis psychédéliques, des amis cinéphiles qui trippaient sur le film. Entre 68 à sa sortie, puis 1904, début des années 80, c'est un film que peu de personne n'ont vu parce que ce film-là n'a jamais trouvé son public. Mm. Et je te dirais que c'est à la mi-80, MTV, Musique Plus, il y a eu un revival des Monkees. La série des Monkees repassait à la télé, ça recréait un intérêt où là, l'ensemble de leur catalogue a été réédité. Et là, Rhino Records a eu l'idée de ressortir le film en VHS, mais là, de le marketer comme l'ultime film pour les fumeux de potes. Donc, c'est un film de potter, c'est un film de stoner. Puis c'est effectivement un film très, très, très psychédélique. Mais en même temps, très subversif. Puis, c'est une des questions que je vous poserai un peu plus tard. Il y a beaucoup d'éléments de subversivité dans ce film-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, en 2017, on serait-tu capable de faire un film aussi subversif?
Pas avec des vedettes comme ça, ou j'imagine.
Non.
Ou faudrait que ça aille avec le consentement.
La réponse est non.
Non.
Non, ça n'arrivera pas.
Non.
Non, ben non, arrête.
Tu sais, avec des extraits du Vietnam, la même fille qui French les quatre gars.
Oui.
C'est... Non.
C'est l'exercice de déconstruction de l'image qui était les Monkees fonctionne totalement, mais c'est ça, faudrait vraiment ça serait comme prendre, je sais pas, quel ben préfabriqué d'aujourd'hui et de faire le même exercice, les mettre entre les mains d'un cinéaste qui se lancerait dans l'aventure. Je sais pas jusqu'à quel point ça passerait, en effet.
En effet. Mais je pense que pour comprendre le film Ed, faut revenir un petit peu sur l'historique des Monkees.
Oui.
Je vais essayer de faire ça très rapidement.
Prends le temps qu'il faut. Oui. Je pense que ça vaut vraiment
la
peine.
On a une heure.
On a une heure.
Ça passe vite une heure quand on aime un film passionnément. Mm. Mais en gros, Bob Rafelson, en 64, a l'idée de faire une série télé basée sur le film Hard Day's Night qu'il aime et sur la base de tous les films anglais de Mercy Exploitation. Les Dave Clark Five font leur film. Jerry and the Pacemaker font leur film. D'ailleurs, les Dave Clark Five, peu de gens le savent, mais c'est le premier film de John Boorman. John Boorman, William Friedkin ont tous commencé avec des films de rock'n'roll. Ils sont devenus des enfants terribles. Ils ont déjà commencé avec des films complexes. Donc, bref.
Ça s'appelait des Mercy Exploitation?
Oui, parce que c'était le Mercy Scene. C'est de là où venaient les Beatles. Et beaucoup des groupes anglais venaient des bords de la rivière Mercy. C'est une rivière? Bref.
C'est un courant d'eau.
Le courant d'eau, le Mercy. Donc,
c'était super intéressant, merci.
Et il y a près de 40 films qui ont été faits dans les années 60 sous le thème de la Mercy Exploitation. En quelque part, les Beatles et Hard Day's Night est un film, la planète au complet a été conquis. Puis le concept est très simple, facile à comprendre, très international. Un groupe extrêmement sympathique vit des situations cocasses et reste ami peu importe ce qui arrive. T'sais, en gros, c'est ça, Hard Day's Night.
Ouais.
Ils se font courir après des filles, ils se font charrier de gauche à droite. Non, viens, t'as une première. Non, la star, faut qu'on aille, on a une entrevue TV. Non, la star, faut qu'on aille faire une répétition pour le show. C'est un band qui est toujours tiraillé puis qui a jamais de liberté. Bob Rafelson dit, on pourrait faire une émission de TV avec un band qu'on pourrait créer nous-mêmes. On va choisir nos quatre musiciens. On va aller chercher les meilleurs writers pour leur écrire des tunes. À chaque épisode, le band va jouer deux tunes, puis il va leur arriver des aventures cocasses. Mais quand je parle de cocasses ici, je parle plus d'un épisode de Scooby-Doo, de Josie and the Pussycat. Bref, c'était vraiment une émission qui était axée vers le marché des 8 à 12 ans, qui commençait à aimer le rock'n'roll. Les personnages des Monkees ressemblent beaucoup aux personnages des Beatles. Il y en a un intellectuel, il y en a un qui est gêné, il y en a un qui est plus spirituel, puis il y en a un qui est carrément le clown du groupe. Ouais. Donc c'est un band qu'on dit préfabriqué. D'ailleurs, le prénom des Monkees était les Prefab Four. les Fab Four préfabriqués. Donc, les Beatles, c'est les Fab Four. Eux, c'est les Prefab Four. Bob Rafelson a mis en 64 une annonce dans Variété disant « Je cherche quatre musiciens et acteurs pour créer une série autour d'un groupe rock. » Et le groupe a été créé comme ça. Parmi les gens qui ont appliqué à ce show-là, Stephen Stills de Crosby, Stills, Nash & Young a appliqué.
C'était-tu des musiciens à qui on demandait d'être des comédiens ou c'était des comédiens qu'on disait si t'es capable de jouer du drum ou de la guitare, go for it?
On demandait des comédiens musiciens.
OK, vraiment 50-50.
Et ultimement, il y en a juste deux qui savent vraiment jouer. Okay. Mais ça, on y revient. Parmi les gens qui ont... Et là, vous voulez de la subversion, vous voulez un what the fuck? Un des gars qui aurait appliqué pour un des rôles des Monkees, c'est Charles Manson.
Oui, c'est vrai. Attends, quoi? J'ai vu ça, oui.
Imaginez-vous Charles Manson dans une émission pour enfants qui aurait un véhicule subversif.
Attends, quoi?
il y a les tapes qui, je pense, qui circulent
rumeurs. On saura... Écoute, c'est une légende urbaine, puis... J'ai lu en quelque part d'une entrevue. En fait, c'est Mike Dolenz qui a fait un jour une joke à la radio, puis il disait « Tout le monde a appliqué sur ce show-là, de Stephen Sill à Charles Manson. » Mais pour lui, c'était une blague, mais l'histoire a retenu cette blague-là qui est devenue une espèce d'énorme légende urbaine. Mais j'aime l'idée de 15 secondes se poser la question « Et si Charles Manson avait été un des quatre membres des Monkees? »
Ben, ça l'aurait probablement réglé sa situation, parce qu'on sait que Charles Manson a été mené un peu dans tout son déboire à essayer d'être un émule des Beatles. Ça aurait...
Oui.
C'est le genre de truc de comme si Adolf Hitler avait réussi à l'école d'art.
T'sais. Voilà, s'il avait été accepté à l'école d'art, on n'en serait pas là.
Ouais. Wow!
Mais j'aime juste la joke.
Bref. Elle est fantastique, la joke.
Les Monkees sont tellement loin de tout ce qui est subversif, l'émission télé, on s'entend, parce que c'est décidé aux jeunes. Et donc, les Monkees, c'est un groupe qui se retrouve dans un canevas qui est écrit pour eux autres. Ils sont sympathiques, ils sont charismatiques. Il y en a un, Michael Nesmith, qui écrit des tunes, qui a déjà enregistré un disque. David Jones a déjà deux disques à son actif en Angleterre, celui-ci en 65 et en 67.
Okay.
Tellement que David Bowie s'appelait à l'époque David Jones. Mm-hmm. Et David Jones a changé de nom pour David Bowie pour ne pas être confondu avec David Jones. Le David Jones des Monkees, qui avait une carrière beaucoup plus style cabaret, style chanson Broadway. Puis derrière, dans les Monkees, toujours, c'est un peu ce rôle-là qu'il a joué, d'être un plus comme le beau gosse Broadway.
Ah, okay.
Lui, son claim to fame, c'est que ça a été un des gros rôles de Oliver, une comédie musicale qui met un adolescent, qui met un enfant. Donc lui, c'est Oliver à Broadway.
C'est lui?
De 66 à 68, oui. De 64 à 66, oui.
Ah!
Et c'est comme ça qu'il est casté, parce que déjà, il fait déjà partie un peu du star system. Mm-hmm. C'est déjà on appelle ça un Tenny Bopper aujourd'hui. Ouais. Une idole pour les jeunes. Et donc, lui, t'as casté pour être le Paul McCartney du band. Peter Tork, qui était aussi un musicien, lui, qui jouait du banjo et de la guitare folk, qui avait une carrière dans Greenwich Village, lui est rentré. Michael Nesmith avait déjà un album de country rock à son actif.
Mickey?
Et Mickey Dolenz, lui...
OK, Michael Nesmith, excuse-moi.
Michael Nesmith, donc qui est un peu le John Lennon, si on veut, du groupe. Et finalement, il y a Mickey Dolenz qui se veut être un peu comme le Ringo Starr. Lui, aucun talent, mais lui, dès le moment où il a le contrat, il apprend à jouer du drum, il apprend à jouer de drogue.
Jouer de la drogue. Yes!
À jouer de l'orgue, yes! Oui. Les deux.
Oui, probablement, oui.
Et donc, le groupe, très rapidement, est capable de défendre ses chansons en spectacle. Sur les deux premiers disques, il ne joue aucun instrument, ils ne sont que des voix. C'est des marionnettes. Mmh. Des marionnettes pour des compositeurs comme Neil Diamond, comme Carole King, comme Neil Sedaka, comme Art and Bart, des gros noms.
Qui composent pour eux.
Qui composent. Le Brill Building, qui abrite entre autres, est à leur service, qui avait Phil Spector, puis toute l'intelligentsia de la musique pop des années 60, travaille à faire des Monkees le plus gros band au monde.
Fait que tout le monde qui est considéré comme ayant le cerveau de l'intégrité artistique se sont tous mis à l'œuvre pour créer le premier boys band ou groupe, oui, approximativement le premier boys band de l'histoire de la musique.
Mmh. Exactement.
C'est malade.
Mais en plus, le groupe est capable de défendre les chansons sur scène. Donc, eux partent en tournée, puis pas avec n'importe qui. Leur première tournée, c'est Jim Hendrix qui ouvre pour les Monkees. C'est très malheureux parce que les enfants de 12 ans comprennent pas Jim Hendrix, puis ses grimaces sexuelles, bref.
Oh non, ils comprennent. Bon, oui, oui.
Ils comprennent.
Au final, il y a quelque chose à faire.
Ils ont fini par comprendre.
Ils ont fini par comprendre quelque chose. Et donc, les Monkees, c'est un band qui est toujours en train de lutter. Ils veulent jouer des instruments sur leurs albums. Ils veulent être impliqués artistiquement sur les albums. Ils veulent être impliqués artistiquement dans la série. Et c'est un long combat comme ça qu'ils vont mener. Donc, dès le troisième album, Headquarters, ils vont avoir le droit de jouer. Ouais. Sur l'album, mais avec en compagnie de musiciens de session, puis c'est correct. Tout le monde avait des musiciens de session dans le temps, de toute façon. Le groupe se voit le droit de signer 4 ou 6 des chansons de l'album. Et donc, ils vont comme ça quand même... C'est un groupe qui a passé tout son temps à essayer de s'affirmer, passer de...
De comme être un band, là. C'est comme, laissez-moi tranquille, je veux faire la musique, là.
Ben voilà. Et ils n'ont jamais été capables... En 68, la série, donc, de Monkees est un énorme succès, fonctionne très bien chez les 8 à 12 ans. Il y a, aux États-Unis, une Monkey Mania, il y a des boîtes à lunch, il y a des thermos, il y a tout ce que tu veux à l'effet des Monkees. Mais la série en 68 est cancellée parce que, bon, c'est une mode, puis la mode est passée.
Ouais,
et les Monkees décident de faire un... Ils s'assoient avec, donc, Bob Rafelson, qui est leur producteur, qui est leur mentor, qui est leur dieu, en quelque part, qui décide de chacun des moves qu'ils font. Et ils décident d'écrire et de réaliser un film. Bob Rafelson est rentré dans la business de la télé parce qu'il veut être réalisateur. Donc, lui, il voit dans l'opportunité de faire son premier film. Il voit que les Monkees ont l'opportunité de faire son premier film. Et premier film dont le scénario n'est pas signé par n'importe qui, par un jeune Jack Nicholson, alors acteur, qui essaye de s'imposer comme scénariste. Il a déjà écrit The Trip, entre autres, pour L'écurie à Corman. Il a collaboré, il a été acteur de soutien sur certains petits films, mais à ce moment-là, sa carrière ne va pas nulle part, et il voit dans Ed peut-être une possibilité pour lui de devenir scénariste.
Ça s'inscrit aussi dans l'optique de la compagnie BBS.
Oui, c'est la naissance de la compagnie BBS, qui donc, c'est Rafelson et son producteur, à l'époque ça s'appelait la Ray Burt, qui décide de fonder une compagnie de films qui va produire et réaliser un certain nombre de films très importants dans les années 70. Je vous nomme The Last Picture Show, pour n'en nommer qu'un seul. Je vous nomme Five Easy Peas, où Bob Rafelson et Jack Nicholson, ce duo-là, vont faire 3-4 films dans les années 70 qui vont changer. C'est un peu comme la nouvelle vague française, c'est une autre façon de filmer. On refuse les studios, c'est les éclairages naturels. C'est des films qui sont beaucoup inspirés d'Easy Rider et de tout ce cinéma underground indépendant-là de la fin des années 60, où on cherche une certaine authenticité, puis le souci n'est plus de servir un producteur, des studios ou des vedettes, mais bel et bien de raconter des histoires et de témoigner d'un malaise social quelconque. Et donc, ben voilà. Donc, les Monkees arrivent en 68 avec cette idée de projet de film-là. Ils se réunissent pendant 3 jours dans un club de golf avec Jack Nicholson, avec Bob Rafelson, et ils décident de... Ils fument de la drogue, ils discutent pendant 3 jours, et ils vont brainstormer, mais ils vont enregistrer sur cassette tout ce brainstorm-là, et Jack Nicholson s'en retourne chez lui et ne fait que retranscrire cette espèce de pensée libre-là où chaque idée en amène une autre. Et ça a donné ce film-là qui ne ressemble à fucking rien.
Ouais.
Le band veut se défaire de son image, et c'est ça qui est important parce que...
Oui, je pense que c'est la clé.
L'idée de l'identité est très importante, puis tout le film repose là-dessus, c'est que les Monkees qu'on connaît, ce ne sont pas les 4 musiciens, mais c'est 4 représentations des musiciens écrites par des scénaristes mis en scène à la télé. Mais eux savent bien que s'ils font un film sous le nom des Monkees, ils doivent reprendre les personnages des Monkees de la série télé, mais ils sont pas à l'aise de le faire. Ils savent que c'est un film qui normalement serait dédié aux 8 à 12 ans, mais ils ont le goût de faire un film pour adultes avec de la drogue, des femmes, des French.
Ben parce qu'eux autres sont là dans leur vie, là.
Ben, ils vivent à Laurel Canyon, ils se tiennent avec ce monde-là. Leurs meilleurs amis, c'est des Frank Zappa, c'est des Crosby, Stills, Nash & Young. Ils sont au cœur de cette génération-là.
C'est ça.
Mais ils ont pas, ils sont amis avec ces gars-là, mais ils n'ont pas la crédibilité ni du public, ni des critiques. C'est un peu comme on avait Jean-Claude Lard cet été. C'est un peu le même genre de principe. Le public t'aime, mais les critiques ne comprennent juste pas.
Absolument.
Puis ils s'attardent toujours sur des détails au lieu de comprendre le big picture.
Oui. Puis c'est ça, on en parlait en introduction à l'émission. Ben, avant l'émission, tantôt, qu'on tentait prendre un verre au bar salon, tu sais, on dirait que les Monkees, c'est une joke que tout le monde a compris ou que tout le monde participé à cette blague-là, mais que le public a pas compris. T'avais tellement de gens intelligents, pis t'avais tellement, tu sais, on en a parlé assez, là, de,
oui,
du Hollywood des années 70. Si, c'était du monde effervescent, pis passionné, pis ça leur tentait de tout faire à la fois, tout décalisser, pis tout reconstruire simultanément. Puis il était derrière ça. Tu sais, on n'a pas eu, on ne pourrait jamais espérer qu'il y ait eu des gens aussi intelligents qui ont été derrière NSYNC ou les Backstreet Boys. Là, t'avais vraiment, tu sais, quatre gars qui rentraient à la maison puis qui passaient du temps avec les grands esprits de cette époque-là. Fait que quand tu leur dis déconstruisez, ils font pas ça à moitié, là.
Exactement. À, ben, à preuve, regarde le film des Spice Girls. Qui est un autre band préfabriqué.
Excellent point.
Et tu cherches le film aussi, mais la différence entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de propos.
Ouais.
Les deux, c'est une exploitation d'une certaine vedettaria, mais dans un cas, il y a un propos très clair où on cherche à déconstruire les personnages, à déconstruire le...
toute la machine. Toute la machine. Derrière, ben oui.
Mais en même temps, c'est que c'est un film qui, peut-être, qui trop mal embrasse, mal étreint. Il s'acharne à la société de consommation qui est symbolisée par une machine de Coca-Cola.
Oui, oui.
À la vacuité spirituelle qui est représentée par Victor Mature, qui représente une espèce de dieu, mais qui... On sait pas trop ce qu'il fait.
Il a plus l'air de d'un figurant dans Jason and the Argonauts au final. T'sais.
Oui, on parle du Vietnam, le évidemment, Vietnam, qui est extrêmement présent. Un peu comme s'il disait ce qu'on vit, c'est pas important à côté de ce qui se passe à côté.
Mm-hmm. Tu sais, qu'est-ce que c'est la musique populaire quand c'est en train d'essayer de faire l'engagement ou que c'est en train d'essayer de dénoncer ces trucs-là? Il y a rien qui va dénoncer plus que, tu sais, il y a vraiment des bouts, des extraits de fusillades où ils descendent du monde dans les rues, pis t'es comme, oui, ok, ça c'est peut-être trop vrai.
Ça va avec l'époque, je pense aussi. On est en 68, le film a dû être tourné en 67. On est dans le
c'est vrai que le gros désordre.
On est au cœur du désordre.
Ouais,
on est en réaction au Riot on Sunset Strip. Mm-hmm. On est en réaction aux révoltes universitaires. Donc, tu sais, Medium Cool vient juste d'être filmé. Tu sais,
ouais,
c'est le même genre de. Fait qu'il faut voir ce film-là dans cet esprit-là, que c'est un film de contestataire des années 60, que c'est aussi une volonté de détruire quelque chose pour qu'on ne sait pas reconstruire. Quoi encore. Et c'est ce qui nous amène au film Ed. Donc, on a un groupe qui est détruit, qui est démoli, qui veulent se reconstruire à partir de ça. Et faut le dire d'emblée, moi, ce qui m'a amené à ce film-là, d'une part, j'aimais les Monkees, donc j'étais prêt à leur donner une chance.
Oui.
D'autre part, j'adore la bande sonore. C'est un des grands disques pour moi, oubliés ou sous-estimés des années 60. C'est un de mes 10 psychédéliques favoris.
Il est déjà, ouais, tu t'as amené le vinyle, puis c'est déjà quelque chose.
Oui, c'est une
pièce. On peut le voir à la caméra.
Ben, je sais pas quelle caméra qui filme, mais bon. Et ça démontre aussi pourquoi le film a pas marché. C'est juste marqué Ed, c'est un fond de miroir. Il y a pas de... Sur le poster, on voyait le directeur artistique en photographié en noir et blanc, puis c'était marqué Ed sur sa tête. C'était pas mentionné avec les... Puis là, on parle de Frank Zappa, on parle de plein de monde qui ont travaillé sur ce film-là, mais qui sont pas indiqués sur le poster, parce qu'on est en plein Marshall McLuhan, on s'est dit, on réinvente la campagne de publicité. Écoute, la campagne radio, c'est juste Mickey Dolenz puis une fille qui disent « Ed, now, Ed, now, Ed, now » pendant 30 secondes. Deux semaines plus tard, t'as une autre campagne, il dit « Ed, now ». On comprend pas.
Ça suit l'esprit formel un peu.
Mais c'est dans l'esprit, c'est ça, de détruire, de reconstruire.
Ouais.
Donc, c'est une expérience pour moi, sensorielle, Ed. C'est d'abord et surtout ça. Puis c'est un feeling d'un band qui est pas bien dans sa carrière, qui est pas bien dans sa vie. Et c'est ça qui... Les gens cherchent une histoire parce qu'il y en a pas. Ou en tout cas, s'il y en a une, c'est un peu comme essayer de raconter 8 et demi à son meilleur ami qui aime pas trop le cinéma. C'est pas facile. Mais c'est comme essayer de raconter Abattoir 5 où ça parle d'un gars qui est perdu dans l'espace-temps, puis il s'endort en 68, il se réveille dans le futur, il se réveille en 45, il se rendort en 72. Très dur à expliquer. Puis en même temps, c'est le même genre d'enchaînement. Moi, j'ai pensé beaucoup à Abattoir 5. On pense aussi à The Truman Show, qui est l'histoire aussi d'un acteur qui sait pas qu'il est acteur, qui est prisonnier d'une série dont il sait pas que c'est une série parce que pour lui, c'est son quotidien.
Puis qui veut un peu déjouer le film dans lequel il est prisonnier autant
qu'il est pas capable,
autres,
parce qu'il s'en va sur un océan, mais même l'océan est manipulé par les... Fait que bref, mais c'est d'abord, puis c'est un 8 et demi aussi, on a un réalisateur qui se pose des questions dans 8 et demi sur le film qu'il est en train de faire, qui doute. Dans Head, les Monkees n'arrêtent pas de se questionner sur ce qu'ils font, on pourrait y revenir. Il y a plusieurs scènes énigmatiques où les membres se questionnent sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils sont. C'est un film existentiel en même temps.
Ben oui.
Ça s'appelle Head, faut pas se le cacher. Évidemment, c'est un anti-Hard Day's Night, parce que tout. Oui. On reprend l'idée de Hard Day's Night où les Beatles sont pourchassés par des fans. Ici, ils sont pourchassés par des gens d'industrie qui veulent les tuer. Ils sont dans des situations... si vous pensez à des running gags dans Hard Day's Night, à chaque fois que les Beatles essaient de manger, on les prend par les bras puis on les amène pour aller voir un coiffeur, pour aller en répétition, pour aller enregistrer un truc à la télé. Ils sont jamais libres. Ils sont jamais capables de faire ce qu'ils veulent.
Ouais.
Ed, c'est un peu ça, mais à la puissance 20. Mmh. Appelons ça comme ça. Donc, okay. C'est pour ça que je dis que c'est un peu un anti-Hard Day's Night. Mais sinon, l'autre parallèle que je préfère avec la culture populaire, c'est les bijoux de la Castafiore de Tintin. Qui sert, dans le fond, à développer des personnages, mais en même temps, à les faire exister dans un espace où il n'y a pas d'aventure précise. Et là, ça laisse leur vraie personnalité ressortir. Les Dupont, Tournesol, prennent vraiment une autre personnalité au hasard de ce livre-là, où il ne se passe pas grand-chose. Puis ce qui se passe, c'est une prémisse à faire évoluer les personnages.
Ouais, c'est juste un feu roulant. C'est de l'action sans arrêt.
Pour moi, on vous dit ça, elle, il n'y a pas d'histoire, mais ça n'arrête jamais. C'est un feu d'artifice, de situations, de couleurs, de musique. Et je vous ai beaucoup parlé.
Presque de l'air d'un film à sketch par moment, du fait qu'on se promène d'un truc à un autre, ils se font aspirer, ils tombent dans un autre univers.
On pense à Monty Python, Flying Circus, on pense à Enough or Completely Different, où il y a une espèce d'association entre les gags. Mm-hmm. Et les gags ne semblent pas reliés, puis en réalité, il ne faut pas chercher le lien, mais il faut comprendre pourquoi ils sont là.
Ouais.
Ed, c'est le genre de film qui se révèle après le visionnement, où il y a certaines chansons où si tu écoutes les paroles une à une, ils ne font pas de sens, mais si tu regardes toutes les paroles dans leur ensemble, ils se mettent à faire un sens. Mm-hmm. Ed ne fait un sens qu'après sa projection, quand tu réfléchis au pourquoi de la chose. Mm-hmm. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes tenté de le regarder, ce que je vous dis, c'est accrochez-vous pas. Ouais, regardez-le.
Abandonnez pas.
En vous posez pas de questions, abandonnez pas. Puis sachez que ça m'a pris deux fois avant d'embarquer comme il faut.
Ouais, ouais.
Ah oui, j'ai trouvé ça difficile, agressif. Même, je comprenais pas où ça allait.
L'intro du
ça me frustrait de savoir que ça allait pas. L'intro, ça me va. Ouais. L'intro m'a accroché.
Oui, okay.
Ben, c'est psychédélique, des sirènes renversées photographiques. On pourra en reparler. Parce que essayer de résumer ce film-là, c'est difficile.
Ben, c'est plutôt ça. C'est que, tu vois, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est autant que je l'ai écouté souvent, je m'en rappelle pas intégralement. Il n'y a pas de moment de...
C'est ça. C'est dur de faire le lien. Cette bout-là vient-tu après celui-là?
C'est ça, tu sais. C'est comme tantôt, tu racontais l'histoire du hublot, puis de la fumée, puis du harem, puis je suis comme... Ah ouais, ça, c'est le moment où il y a la fille qui arrête pas de faire des pirouettes sur elle-même, puis l'autre, il passe pour un faux maraîcher. Mais tu sais, il n'y a pas vraiment... C'est ça. C'est assez compliqué de cerner quelque chose qui a autant peu de cohérence. Tu sais, t'es pas... Ah ouais, attends, la baleine, est-tu arrivée avant ou après le tank?
Mais c'est un film atypique, tu vois, il n'y a pas de générique. On réalise après 15 minutes qu'il n'y en a pas eu puis qu'il n'y en aura pas. À un moment donné, on nous indique qu'on est dans le rêve d'un policier, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'on sort de ce rêve-là. Est-ce que c'est une simple transition? Est-ce que tout le film est le rêve fou d'un policier mythomane?
Pourquoi pas?
Et tout s'ouvre, c'est ça qui est beau, c'est que comme tu faisais la comparaison, c'est une poupée
russe
qui s'ouvre à l'infini. Puis
il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de logique, sauf le fait qu'il y a un monde qui habite dans un monde qui habite dans un monde. Moi, ça me fait penser à The Magic Christian aussi, un peu.
Oui.
Qu'il y avait cette espèce de feeling de... Puis là, il y a un moment que la Panthère Rose puis Ringo Starr sont sur un paquebot. T'es juste... OK, je vais l'accepter. Puis c'est là où ces films-là, moi, me déstabilisent moins, parce que acceptez-le. Tu sais, c'est ça, c'est juste... Pas, je trouve que la façon que vous l'avez dit, c'est comme... souffrir, ou comme...
Oui, oui.
Ça peut être difficile, mais continuer quand même, c'est persévérer. Mais moi, c'est juste, laisse-toi faire. Il y a un moment où il y a des comme trois chics autour d'une machine à coke qui explose. Puis c'est vraiment le fun.
Oui, mais en même temps, tu sais... Quand tu regardes pour la première fois 8,5 ou la Dolce Vita, je sais que je prends des exemples, vraiment.
Ah non, mais
c'est des films qui sont durs à s'accrocher. Puis, Ed demande le même effort, mais donne peut-être le même résultat.
Ouais.
8,5, je vais en parler à 8 personnes, puis 8 personnes n'auront pas nécessairement la même interprétation, parce que c'est la beauté de ce genre de film-là, c'est que ça dit ce que tu veux, parce que ça exprime un malaise de façon artistique, mais sans le nommer.
Mm-hmm.
Et donc, artistiquement, tu peux te l'approprier. Pour toi, ça peut être un truc sur la vacuité artistique, sur le vide artistique, sur la vacuité du métier, sur le fait que même si tu veux parler de tes souvenirs, tu seras jamais capable, parce que tes souvenirs sont passés, puis tu peux jamais les évoquer avec le contexte de ce souvenir-là.
Les échos sont différents.
Parce que essayer de raconter la Dolce Vita, je suis encore pas capable de le raconter.
C'est une
suite de scènes qui s'enchaînent, qui servent à définir la décadence et la vacuité vacuité spirituelle qui existe en Italie à la fin des années 60. Pour moi, c'est ça. Puis en quelque part, Ed, c'est ça qu'il fait aussi. C'est une vacuité hollywoodienne parce que Hollywood en mange pour... En fait, tout le monde en prend pour son rhume. Mm-hmm. C'est ça qui est beau. C'est comme toute la carrière d'RBO. Ils ont vargé sur tout en bout de ligne. Et c'est ça que j'aime.
Mais... Et puis, le film, ce que je trouve intéressant aussi, le film devient méta à un moment donné où, au-delà de la déconstruction puis des sketchs, on en vient à un moment donné à sortir de la scène où la scène s'arrête brutalement et on a tout d'un coup, on découvre le réalisateur Bob Rafelson, on découvre Jack Nicholson, Dennis Hopper qui passe rapidement, et tous ces gens-là sont derrière en train de se questionner, OK, cette scène-là, est-ce que ça fonctionne? Puis là, t'as l'acteur, le membre de Monkees qui dit, ben moi, je suis pas sûr si je devrais frapper cette femme-là, puis faire ci comme ça, puis...
Pis ça, c'est 5 ans avant Holy Mountain, hein?
Oui.
T'sais, ça vaut la peine de le mentionner, le fait que cette espèce de truc spirituel ou holistique de comme, on recule la caméra et l'artifice se révèle. Non, là, ça arrive dans un espèce de comme, je devrais-tu être en train de puncher la serveuse qui est un homme dans une, parce que j'ai comme trop de crème glacée sur la main.
T'as beaucoup de scènes de même, justement, un peu plus loin, tu vas avoir une scène où c'est vraiment une scène musicale parce que t'as des petites interludes musicales quand même dans le film pour les Monkees. Puis à un moment donné, la pièce est terminée et le personnage va sortir à l'extérieur du studio. Et là, tout d'un coup, va rencontrer Frank Zappa qui est avec une vache.
Parlante.
une vache qui parle déjà. Et t'as Frank Zappa qui est en train de lui dire « Ouais, c'est vraiment de la musique de blanc que t'es en train de faire. » Ouais, ben écoute, je suis blanc.
C'est le fun, t'as appris à danser, t'as appris ta chorégraphie, mais la musique dans tout ça. Et je suis content que tu nommes cette scène-là parce qu'en quelque part, c'est la clé de tout le film. C'est... T'as beau jouer, t'as beau tout faire, vous avez oublié la musique. Les Monkees, c'est pas un sketch de télé, c'est pas un sketch à Saturday Night Live, parce que les Monkees sont partout, ils font des publicités pour Kool-Aid, pour des céréales, pour des Nerf Balls, ils ont tout ce merch-là. Fait que c'est un peu comme les Beatles, c'est un band qui a un énorme pouvoir médiatique, mais puis ça a été le grand choc des Beatles en 65 quand Bob Dylan leur a dit, écoutez, vous êtes en ce moment les personnes les plus influentes sur la planète, puis vous parlez de pognage de main, tabarnak. Parlez de vraies affaires, là. Vous êtes des demi-dieux, puis vous parlez de pognage de main à des enfants de 14 ans. John Lennon n'a vraiment pas pris, puis c'est à partir de là qu'on a des chansons comme Babies in Black, qu'on rentre dans l'introspection. Qu'on a des. Ça a pris Bob Dylan pour leur dire, man.
Qu'est-ce que vous faites, là? Vous êtes.
Tu sais, c'est bon, mais ça dit rien. C'est vide comme calories, là.
Wow!
Et.
J'ai jamais entendu cette histoire-là.
C'est assez...
Elle est légende dans les sons du rock'n'roll.
Et la beauté de ce geste-là, si je vais juste finir cette parenthèse-là, c'est que les Beatles ont amené l'électricité à Bob Dylan. Parce qu'après cette rencontre-là, t'as Like a Rolling Stone. Fait que c'est la rencontre de deux univers qui a donné la pop de la fin des années 60. Mais pour revenir à l'aspect méta, à Frank Zappa, à tout ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui se questionne lui-même sur sa place. Pour le résumer, en gros, je sais pas s'il va être capable... Justement, c'est les quatre membres du groupe qui habitent ensemble dans la même maison, un peu comme les Beatles dans Help ou dans Hard Day's Night, ou un peu comme la série télé. La série commence, en fait, l'inauguration d'un pont qui est fait par un service militaire, on ne sait pas trop pourquoi.
Là, tu as
une longue scène de cabotinage avec un micro qui ne fonctionne pas quand c'est un politicien qui l'utilise, mais qui fonctionne très bien quand c'est un policier ou un gars de l'armée qui le prend. Tout d'un coup, out of nowhere, t'as des sirènes, t'as des bruits de sirènes de nucléaires, t'as des sirènes de bateaux, t'as plein de bruits. Là, les Monkees arrivent en courant, poursuivis par toute l'équipe du film, par tous les figurants du film qui semblent vouloir les tuer. Et là, ils arrivent au bout du pont et Mike Dolenz monte sur le pont et il saute dans un geste qui est carrément un suicide. On n'est même pas à 4 minutes du film. Les gars veulent casser leur image et déjà, ils suicident à la 4e minute. Ça va à peine être précisé. Mike Dolan tombe dans l'eau, il tombe dans un trip psychédélique, il est recueilli par deux sirènes qui lui donnent le baiser de la vie et qui le ramènent à son réveil dans son appartement à travers une magnifique transition dans un aquarium qui est bien placé dans l'appartement des Monkees. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que tout ça est un peu comme dans, je pense par exemple à Sunset Boulevard, où le film commence avec un cadavre qui flotte et tout le film va t'expliquer comment on est en arrivé à avoir ce cadavre qui flotte sur une piscine. Est-ce que le film va nous amener à comprendre pourquoi que Mike Dolenz veut se suicider. C'est là tout le mystère du film. Il se réveille, il y a une groupie qui est avec eux autres, qui embrasse les quatre. à tour de rôle. Et déjà, bon, là, on est dans la subversion. Tu sais, hey, les Monkees, ouais, c'est ouais, pour enfants. Là, ils freinent toutes la même fille, là. C'est weird.
Puis il y a les cotes aussi. Ça, c'est quand même quelque chose de... Ouais.
Vous êtes toutes égales.
Vous êtes toutes égales. J'arrive pas à vous distinguer les uns que les autres. Et à partir de là, le bordel part. C'est ça, l'histoire du film. Ouais. Et là, ils vont se retrouver projetés dans un sketch de pendant la Deuxième Guerre mondiale, où le thème de la tête revient tout le temps, parce que l'enjeu du sketch dans la guerre, c'est un casque militaire. Donc, il faut protéger sa tête pendant le... Ils vont se retrouver un moment donné prisonniers dans la tête de leur producteur. Oui. Ils sont devenus des pellicules de leur producteur qui les aspirent. Ils vont se promener d'un sketch à l'autre comme ça tout le temps, parce qu'ils essaient de fuir. Dans le fond, c'est ça, la série télé, c'était des sketchs. Et les Monkees essaient de fuir leur sketch, mais se retrouvent toujours, à force d'en fuir un, se retrouvent dans un autre. Oui. Puis quand ils réussissent à fuir le deuxième, ils se retrouvent dans une boîte noire. En réussissant à fuir de la boîte noire, ils vont se retrouver dans un autre sketch. Et c'est ça pendant une heure et demie.
Une heure et quart.
Une heure et quart, une heure et vingt. Ils vont donner un spectacle. Il va avoir trois, quatre moments musicaux. De temps en temps, on revient dans leur maison. On assiste, entre autres, à une scène extrêmement bizarre sur un surprise party pour Michael Nesmith, qui est super ingrat, puis qui les envoie chier parce qu'ils ont fait un party, puis ils n'aiment pas les surprises. Après ça, ils se font agresser par un cow-boy à qui ils n'ont pas voulu adresser la parole plus tôt, puis qui est fru. C'est ça, Ed, c'est un mindfuck, tu sais, c'est ça, c'est... Mais en même temps, c'est un état constant d'essayer de fuir ce qu'on peut pas fuir. C'est un état constant d'un groupe qui est prisonnier d'une image et ils ont beau essayer, il y a un dieu qui veille sur eux autres, mais en fait, il ne veille pas sur eux autres, mais qui s'occupe de toujours les remettre
les récupérer
dans un sketch. Régulièrement, ce dieu-là, on le voit regarder à la TV puis changer de poste. Puis comme par hasard, on va voir des extraits justement du Vietnam avec le président des Vietcong qui se fait tirer dans la tête en pleine rue par
ou du classique Hollywood, il y a des super belles scènes de Dinner at Eight, puis des affaires de même que t'es comme, ah, ouais.
Fait que c'est une réflexion sur Hollywood, sur le divertissement, sur quel est le sort qu'on réserve aux entertainers dans ce monde-là, qui sont des produits jetables. Eux-mêmes sont montrés comme des produits jetables. Un moment donné, il y a une scène où ils sont en spectacle, les fans montent sur scène, leur arrachent leurs vêtements, leur arrachent leur tête, leurs cheveux, puis on réalise que c'est des mannequins. Moi, c'est peut-être une de mes scènes favorites avec celle de Zappa qu'on parlait tout à l'heure. Ben, et je pense que c'est celle qui est la plus... Elle est révélatrice, puis elle est forte.
Oui, puis elle démontre bien justement c'est quoi les Monkees, finalement. Donc,
ce malaise-là, mais est-ce que c'est eux qui se voient comme ça? Est-ce qu'eux ont l'impression qu'ils sont vus comme ça?
C'est ça, on est vraiment plongé comme dans un cauchemar de ce que c'est le cauchemar d'être dans les Monkees.
Puis le film est ponctué au milieu d'un cauchemar, comme on dit. À un moment donné, t'as un policier qui perd connaissance après avoir vu Dieu dans le miroir. et là, ça dit « The Cop's Dream ». Et on ne sait jamais quand est-ce que finit ce rêve-là. Donc, tout le film est peut-être... Les Monkees sont peut-être prisonniers du rêve d'un dieu fou. Et là, on rentre dans une dimension qui est beaucoup encore plus méta, mais qui rentre dans du Lovecraftien. Donc, c'est très utulu en quelque part. C'est...
Mais j'argumenterais aussi peut-être qu'ils sont pris dans le rêve des Beatles. C'est aussi... Non, mais parce qu'il y a toujours une trame de fond de Beatles dans le film. Puis le fait que...
Ils se mettent à siffler la Strawberry Fields.
Strawberry Fields, quand Peter Tork rentre dans la salle de bain, il siffle Strawberry Fields, en effet.
Il y a des petites notes de temps en temps aux Beatles.
Puis aussi le fait qu'ils sont forcés de rejouer Hard Day's Night, en quelque sorte.
Ouais.
Tu sais, c'est ça. Tout le monde est conscient du projet des Monkees. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que le premier projet, le Pre-Fab Four, comme Mac, tu les appelles... Il y a personne qui a été dupe de ça. C'était comme,
on prend le principe des Beatles, puis on va amener d'autres mondes à triper sur ce band-là.
Ben, on sait exactement ce que vous êtes en train de faire.
Ça. On a besoin d'un comme ça, un comme ça, un comme ça.
Ces quatre-là, c'est des humains quand même, puis ils sont pris dans cette espèce de circonstance de, OK, là, vous nous demandez, parce qu'on est des pâles copies du Fab Four, de rejouer. Tu sais, c'est comme, il faut qu'on fasse un remake d'un film qui est sorti il y a 4 ans, à peu près, c'est 64, je pense, Hard Day's Night.
Ouais.
Fait que c'est à ce point-là qu'on est vos singes. À ce point-là qu'on est vos marionnettes. Là, vous allez nous faire faire un remake de leur film. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'on va imiter le succès? Est-ce que vous pensez qu'on va nous-mêmes dépasser les Beatles? Non! Puis quand tu te fais comme...
C'est l'histoire d'Hollywood, puis de l'exploitation. T'as de quoi qui marche, tu l'exploites. Et ils ne sont qu'un... Et eux-mêmes le disent dans la chanson thème du film. Nous sommes un produit de consommation. Nous sommes faits pour être consommés. Nous sommes préfabriqués. On le sait, puis on l'accepte.
C'est certain qu'en le sachant, il y a une psychose. Puis le film, c'est la psychose de ces gars-là qui sont juste comme... Qu'est-ce que vous voulez, nous? Qu'est-ce qu'on peut vous donner plus? On va faire... Tu sais, il s'écœure tout le temps dans le film. Ouais. Pas mutuellement, c'est pas des gens qui s'envoient vraiment chier. Ils se tannent de leur condition. Ouais. Moi, j'ai tellement ri quand ils s'arrachent les flèches d'Indiens. Puis ouais. comme « Ah! » Si, il enlève ça, puis là, il est dans le tank, puis c'est pas comme, il fait péter. Tu sais, ils sont clairement écœurés, puis ils sont écœurés deux fois plutôt qu'une, parce que ça arrive, ce qui arrive en introduction arrive aussi en conclusion. Ils sont tannés de vivre ça.
Oui, oui.
Ça devient un drame psychologique assez anxiogène.
Oui, parce que, comme tu dis, ça se conclut de la même manière. C'est, on suit le suicide du premier personnage qui va être suivi par le suicide des trois autres. Des monkeys qui sautent aussi le pont, mais qui finalement, en tombant tous dans l'eau, sont récupérés, cette eau-là, parce qu'ils tombent tous un peu, on les retrouve dans ce bocal d'eau que le producteur conduit sur son chariot, puis part avec. Comme
puis quoi, il part en tournée avec le suicide des monkeys pour aller réexploiter ça.
Il y a moyen de récupérer ça pour le producteur, donc je trouve ça vraiment...
Et le film finit comme ça, tu sais. Ce producteur-là qui a aucune phrase, il ne dit rien.
Vrai,
il est là, on comprend ce qu'il est.
Il n'y a aucune intérêt.
Un moment donné, il joue au golf, il frappe avec sa barre, mais il ne dit rien. On comprend que c'est un producteur ou que c'est une figure. Moi, je parle souvent d'un dieu idiot, mais qui cherche à se divertir plutôt qu'à créer quelque chose. Puis pour son propre divertissement, il s'amuse à les mettre dans toutes sortes de contextes. Fait que c'est un producteur hollywoodien, semi-dieu, je sais pas trop. Mais il n'est pas nommé. Dans le générique, on l'appelle The Big Victor, mais on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est Victor Mathieu, il s'appelle Le Grand Victor. Il n'est pas nommé, il n'y a pas de dialogue, puis pourtant, on comprend tout de suite, à cause des poncifs du style, que c'est probablement le producteur. Mais, ou un dieu, on ne sait pas trop. Jusqu'à quel point c'est lui qui a rêvé le film, jusqu'à quel point c'est lui qui récupère les sketchs du film, on ne le sait pas.
Ou est-ce que c'est le flash qu'a tous les membres des Monkeys avant de tomber, justement, avant les flashs avant de mourir.
Le 5 secondes de conscience cérébrale une fois que tu es décédé.
C'est quoi ce truc-là qu'on a vécu pendant je ne sais pas combien d'années.
Ou comme tu disais, c'est peut-être juste c'est des pitchs. T'sais, ils ont fait « Ah oui, ben là, c'est un condensé d'une saison des Monkees au complet. Là, ils vont être dans le désert. Là, ils vont être dans un western. Là, ils vont être dans un harem. »
Ça a été comme ça. Un tel disant « Moi, j'aimerais ça avoir un sketch de boxe. Moi, j'aimerais ça faire un sketch de guerre. Une satire de guerre. Une satire de film de mafia des années 40. Mélodrame avec un enfant qui joue du violon, mais qui ne veut pas jouer du violon. Parce que même dans son rôle, il est condamné à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Son rêve, c'est d'être boxeur, mais son père veut qu'il soit violoniste d'un orchestre symphonique. Et ça c'est le film dans lequel David Jones joue dans le... C'est le film dans le film. C'est tellement méta, mais c'est toujours des gags de tête et des gags de... On est prisonnier de quelque chose qu'on veut pas faire. Ou... C'est toujours contre leur volonté,
Le ton est quand même différent de la série télé, malgré tout.
C'est
le Monkees crépusculaire là, qui tire à sa fin.
Puis il y a un petit côté Batman qui est super le fun. Je vous avais remarqué, il y a un corridor dans leur sous-sol où ils vont, puis c'est le corridor où ils se perdent souvent. Par exemple, leur premier spectacle, on entend les fans crier « We want the Monkees, we want the Monkees ». Ils sont chez eux en train d'évoquer, on sait pas quel dieu ou quel esprit païen. Là, ils s'habillent et là, on les voit en courant dans un corridor. Très, très... c'est quoi? C'est un corridor qui mène de leur maison à la salle de spectacle? Je comprends pas.
C'est le corridor de Spinal Tap.
Et c'est le même corridor, probablement. Mais c'est le même corridor qu'à un moment donné, quand Michael Nesmith cherche les membres du groupe, il les trouve pas, puis il est au ralenti avec des ce corridor quand David Jones se perd dans le miroir, parce qu'il rentre dans le miroir lui à un moment donné, et pour se retrouver encore dans ce corridor-là qui comprend pas, avec une musique super, et il y a souvent des faux semblants dans ce film-là, c'est ça que j'aime. On te manipule beaucoup, entre autres le cauchemar du policier avec Mike Nesmith qui s'en va à son party mais qui sait pas ce qui l'attend, puis il y a une musique, une manipulation qui t'amène vraiment vers le film d'horreur, vers la tension, vers le thriller psychologique, pour finalement se réveiller, surprise, puis c'est pas ça du tout.
Puis comme les astuces.
Mais pendant 5 minutes, t'as l'impression que ça s'en va vers un film d'horreur où tu comprends pas. Il y a beaucoup de ruptures de ton, et c'est ça qui est mélangeant avec le film. C'est toutes ces ruptures de ton-là, mais qui servent à te montrer, regarde, c'est un band qui cherche à fuir tout le temps et qui se retrouve dans toutes sortes de contextes, toutes sortes d'idées, des fois bonnes, des fois mauvaises. D'ailleurs, des fois, ils ont l'air d'être heureux d'être dans certains sketchs, alors que dans d'autres, on réalise qu'ils résistent très vite aux sketchs à essayer essayer d'en sortir. Puis ils vont rencontrer plein de personnages excentriques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont rencontrer un joueur de football qui comprend plus son patriotisme, qui comprend plus la notion du patriotisme.
Qui fonce sa tête dans le mur à répétition.
Parce qu'il sait plus ce qu'il fait ou pourquoi il est là. Écoute, c'est 24 sketchs différents, 6 chansons qui ne sont peu ou pas reliées, mais c'est comme, je vous parlais d'Abattoir 5, Slaughterhouse 5.
Ouais, absolument.
C'est un film qui se révèle à la fin quand on comprend le concept du voyage intertemporel, puis en quoi les matchcottes aident à faire les transitions de temps. Tu ouvres une porte, tu rentres en 67, t'es rendu en 72, juste avec le changement dans le cadre de porte. Ce film-là joue beaucoup aussi avec les matchcottes qui sont magnifiques.
Ouais. D'une manière très pop éclatée.
Ah, ben c'est très pop art. Hein? C'est, c'est avec, je vous dirais, avec Good Times de William Friedkin, justement, le film de Sonny and Cher. C'est un des films les plus pop art qui existe. Ça se dit, je vous conseille pas. Good Times, de Sonny and Cher. Les seules 2 minutes de bonnes, on pourra en parler tout à l'heure, mais les 2 seules bonnes minutes de ce film-là, vous les aurez dans le Zappin' Party dimanche à la Cinémathèque.
Yay!
Mais, puis, t'es tenté, tu dis, hey, William Friedkin qui fait un film rock'n'roll, ben oui, t'es coeurant. Non. C'est un film, c'est un contrat, puis il applique le contrat, puis Sonny and Cher, c'est tout sauf subversif. Fait que tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à faire 2-3 allusions de drogue, mais d'abord et surtout de créer des décors, puis des sets vraiment pop-art intéressants.
Ouais.
Mais c'est à une époque où Cher sait pas danser, où on se demande même si elle sait danser ou si elle est pas doublée. Non, non, c'est étrange comme film.
Mais donc, Head devient aussi un beau commentaire sur ce genre-là.
Oui.
Devient un commentaire sur ces films-là, de comme pourquoi? Parce que, bon, encore revenir à Hard Day's Night, Hard Day's Night est un film qui a propulsé l'imaginaire des Beatles. Tu disais tantôt...
C'est propulsé toute une forme d'exploitation de cinéma où il y a eu pas loin de 200 films qui ont été construits sur le modèle de Hard Day's Night dans les années 60. Herman's Hermit à, comme je vous disais tout à l'heure, au Dave Clark Five. La liste des groupes se multiplie. Herman's Hermit qui en fait 4 films en 2 ans.
Ça n'a pas d'allure.
Puis ajoute à ça tous les films de plage qui ont été faits, mais qui avaient Eric Burdon et Aline Moles dedans, les Supremes.
C'est ça.
Et donc, eux se trouvent à rire un peu de cette exploitation-là, à la dénoncer, mais à l'utiliser pour en faire quelque chose de subversif.
Ouais, exactement.
Il arrive à la fin de cette décennie-là, justement, donc quelque part, il l'amène justement vers sa fin.
C'est la fin d'une époque, c'est la fin du psychédélisme, c'est la fin de plusieurs choses, et devant les révolutions universitaires, devant l'ampleur de la crise du Vietnam, devant la mondialisation.
Ça, on peut
eux
plus
disent,
juste...
on n'est rien, Chris.
Ça,
on est juste des pellicules dans la tête d'un producteur. On n'est même pas un grain de sable dans l'univers. on est un pellicule dans la tête de notre producteur.
Oui, parce que cette scène-là, pour ceux qui ne l'ont pas vue, ça vaut la peine de savoir qu'on a une scène où ce producteur-là, justement, ça le démange un peu, les Monkees. Donc, c'est comme des pellicules sur sa tête. Et tu as vraiment le réflexe logique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On sort la balayeuse, puis on se la passe à la tête, ce qui fait que les petits Monkees sortent des cheveux puis ils se font aspirer par l'aspirateur et ils passent à travers les tuyaux pour se ramasser dans... Donc, vous voyez un peu la zone un peu surréaliste qu'il peut y avoir comme genre de sketch à l'occasion, et ça donne vraiment des moments assez uniques qui s'explique bien comme ça indépendamment, mais qui mis ensemble devient une espèce de voyage.
Surtout que c'est intriguant parce que rarement les Monkees sont les 4, sont souvent 3, sont rarement 4. Peter Tork, entre autres, disparaît pendant 10 minutes. Ouais. Justement, c'est la scène où il donne un coup de poing à une femme. Après ça, il arrête le tournage. Hey, je suis pas à l'aise. Vous savez comment, vous connaissez ma position par rapport à la violence. Je comprends qu'on veut défaire mon image, mais je suis pas à l'aise de frapper une femme. Et là, t'as Raphaelson qui dit, on regardera ça au montage, puis qui s'en va, puis qui le laisse là. Nicholson se garde, c'est déjà écrit, je peux plus rien faire. Et là, il s'endort, puis il se perd d'une tempête de neige, puis on le retrouve 20 minutes plus tard, en train de discuter avec un gourou indien, mais qui lui dit à peu près n'importe quoi. Ça fait aucun sens que le gourou spirituel lui dit. Et les Monkees l'aperçoivent de leur fenêtre en prison, en train de parler avec un gourou. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le sais pas. Mais
ben, les gourous, on le voit...
Ben, les gourous sont une forme d'exploitation aussi, tu sais, c'est-à-dire que...
Puis c'est vrai, les Beatles, t'as pas rendu à cette époque-là encore?
Oui, oui, tout à fait.
Oh, oui,
on était là, oui.
OK, OK, fait que ça fait aussi partie des grands clins d'œil.
Il y a des liens,
Tu sais, la spiritualité indienne, ce que les Beatles aimaient, c'est qu'ils n'avaient pas à se sentir coupables d'avoir de l'argent, tu sais. C'était juste... dit, fouille ta spiritualité, mais remets pas en question ton argent, puis donne-moi ça un peu. Tu sais, c'était ça le gourou. Et ben, t'as vu, ça a fini très mal, cette histoire-là. Puis évidemment, Brian Epstein s'est suicidé pendant que les Beatles étaient... et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sans père, sans famille. Et la déchéance des Beatles commence à ce moment-là avec le suicide de Brian Epstein pendant qu'ils sont en Inde, parce qu'ils font plus de disques. Ils font des disques, mais ils font plus de spectacles.
Non, c'est ça.
Donc, leur gérant a plus de tournée à bouquet. Il n'y a plus rien à faire. Gros scandale, on apprend qu'il est homosexuel, il vit très mal avec ça, mais surtout il a plus sa place dans les Beatles, parce que maintenant qu'ils font juste des 10, c'est George Martin qui est rendu le numéro 1 dans leur univers, puis lui.
C'est bien intéressant,
ça. Et là,
ça.
On a remplacé le mentorat de cet homme-là par un gourou spirituel, fait que lui se suicide pendant qu'eux autres sont avec le gourou.
Non!
Ben oui.
Wow!
Et les Beatles n'auront jamais de gérant après. C'est ce qui va expliquer toutes les décisions bizarres qu'ils vont prendre. Le film Magical Mystery Tour.
Ouais.
Et tout cette...
OK.
Mais c'est une autre parenthèse.
Oui, puis je suis parce que c'est ça, on parle tellement de cinéma ici que je finis par toi. Tu le savais-tu, toi, David?
Ben, moi, je vais avouer, je suis pas la personne qui connaît le mieux les Beatles.
Moi, je connais pas la musique, ça a l'air, là.
Non, mais clairement, Marc est la référence pour une très bonne référence musicale et cinématographique. Et
ben là,
ça, ben, je pense
ben
que
c'est le rock qui m'a amené au cinéma.
C'est ça.
Ah ouais.
Puis
moi, je collectionnais les timbres avant de découvrir le cinéma. C'est sérieux, c'est une vraie anecdote. En 74, en fait, en septembre 75, j'y vais en programme double Tommy et Phantom of the Paradise au cinéma Cartier à Québec. J'ai plus jamais collectionné les timbres de ma vie. J'ai découvert le sexe, le drogue, la rock'n'roll, le cinéma. Mais en plus, j'ai découvert les références parce que j'ai bien compris que dans Phantom of the Paradise, on référait au cinéma comme Nosferatu ou en fait c'est Caligari. Mais en même temps ça référait à la légende de Faust, ça référait au fantôme de l'opéra. Et je comprenais que si je m'intéressais au cinéma, il y avait quelque chose qui s'ouvrait. De Palma m'amenait à Hitchcock, Hitchcock m'amenait à Truffaut. Après ça, j'ai plus jamais regardé en arrière, mais le rock a toujours été un élément moteur pour moi au cinéma. Et si j'ai le choix entre un film d'auteur et un film rock, je vais probablement regarder le film rock en premier.
C'est pour
ça que j'ai vu au-dessus de 425 films rock dans ma vie. C'est ce qui fait que quand la Cinémathèque m'a approché pour faire la conférence de dimanche, je trouvais ça intéressant parce que je trouve qu'il existe peu d'ouvrages sérieux sur l'évolution du rock au cinéma où on définit les genres, les sous-genres, qu'on se questionne sur l'identité. Par exemple, les Monkees est un bel exemple d'identité, comme on parlait, parce que ces quatre musiciens, on ne connaîtra jamais comment ils sont dans la vraie vie parce qu'ils sont toujours pris dans cette image des Monkees-là, pas à la défaire, pas à la refaire, pas à la défaire. Elvis n'a jamais joué Elvis au cinéma. Il a joué des gars qui ressemblent à Elvis, mais il a joué des garagistes, des chirurgiens au cinéma. Ça, c'est dans Change of Habits, son dernier film avec Mary Tyler Moore. Il s'appelle John Carpenter dans ce film-là.
Puis il se fait aller en pendant médecin.
Il y a une scène de gospel. Il a même fait un film où il ne chante pas du tout, Charo. Et il est peint en rouge et il s'est supposé être un Indien ou un Sioux. Je vous laisse vous arranger avec ça.
Oui, oui.
C'est un métis, oui. Maman de malaise. Il ne chante pas. La seule idée pour vous de voir ce film-là, c'est de voir Elvis avec sa dernière teinture puis une barbe pas rasée.
Là, oh, wow!
Quelque part, la conférence puis le zapping party, c'est un peu comme les sources de ce qui t'a amené à...
Oui, voilà.
Au cinéma.
Au cinéma, puis l'histoire de... Oui.
Y es-tu placé... c'est des curiosités vraiment précises, là, mais tu le places-tu en genre? Où ça devient une mosaïque?
C'est une mosaïque qui est beaucoup chronologique, mais je vais dire, je regroupe pas mal tous les punks ensemble entre 75 et 78.
Ouais. Okay.
Donc, je crée des thématiques. Donc, je me permets des fois, comme par exemple, je peux mettre bout à bout 24 Hour Party People puis Control. Même si c'est 8 ans qui les séparent, ils ont le même fucking thème. Ouais, fait que garde, mets-les bout à bout et la réflexion est là. Mais moi, je reviens toujours au thème de l'identité. Fait que même quand on parle de Edwidge and the Angry Itch, par exemple, ou Velvet Goldmine, on parle d'identité sexuelle, mais on utilise le rock'n'roll pour parler d'identité. On parlait de Hard Day's Night tout à l'heure. On a l'impression qu'on connaît les Beatles à cause d'Hard Day's Night, mais ce qu'on connaît d'Hard Day's Night, c'est pas les Beatles. C'est une version scénarisée et mise en scène des Beatles. Donc, c'est quoi la réelle identité des Beatles? J'en suis pas encore certain. J'ai pas la réponse aux questions que je vous pose, mais je me questionne beaucoup sur cette idée-là. Pourquoi il y a des rockstars qui jouent des rôles qui sont proches d'eux autres, mais c'est pas leur rôle? Pourquoi il y a des rockstars qui jouent leur rôle? T'as même des biopics où t'as des rockstars qui jouent leur propre rôle, ce qui est très étrange. Un peu comme Alan Freed, qui à 40 ans se joue adolescent. C'est vraiment bizarre à regarder, ça, là. C'est un peu comme quand tu regardes la biographie de... on change de sujet.
mais comme tu dis, c'est du monde qui se met en scène d'une manière ou d'une autre, que ce soit...
Oui, puis on crée des demi-dieux. Oui, c'est avec... ça. Ouais. C'est une machine à créer des dieux, c'est une machine à créer des icônes, le cinéma.
C'est ça, c'est là où ça devient intéressant, parce que la réflexion peut être poussée au fait que l'album n'a pas le potentiel de créer ces divinités-là. Le stage, un peu, mais dans la visibilité, c'est un peu limité. Les concerts, c'est pas assez pour être capable d'aller chercher dans l'auditoire, par exemple, de la télévision ou du cinéma. Le cinéma sert à cerner ces cas de figure-là.
C'est du pré-MTV, je veux dire. Un artiste pouvait pas aller physiquement dans toutes les villes. Aller dans toutes les villes, c'est une tournée de 2 ans. Donc, de faire un film et d'envoyer... C'est l'idée du colonel Parker. Quand Elvis est revenu, regarde, on va faire 2 films par année, les films vont partir en tournée, toi, t'as juste à rester à la maison à manger des hamburgers. C'est ça, le deal.
Ça n'a pas d'allure.
Et chaque groupe a compris ça, puis les compagnies de disques, dès 57, se mettent à sortir des soundtracks, des films, et c'est un moyen lucratif. Et là, on découvre que si on veut parler aux jeunes, faut passer par ce qu'ils aiment. Puis ce qu'ils aiment, je m'excuse, c'est pas le curling, c'est la musique rock'n'roll.
Ouais.
Et donc, le rock'n'roll va faire partie, va s'intégrer au cinéma, va même être récupéré par le cinéma d'auteur. Antonioni, dès 66, avec Blow Up. Le rock fait partie de sa dénonciation. Zabriskie Point. Mm-hmm. Jean-Luc Godard, avec les Rolling Stones, en 68. Sympathy for the Devil, 1+1.
Ouais.
Le rock'n'roll a envahi plus que tout autre art. Je pense. Quoique la BD, ces temps-ci, avec Marvel, est en train de faire le même genre de ravage. Mais enfin, en même temps, il faut comprendre, les années 50 et 60, c'était ce qu'on vit aujourd'hui avec la bande dessinée et l'espèce d'explosion et de...
Si on peut en mettre partout, on va le faire et tout, là.
Et c'est ce qui se passe. Fait que, puis t'avais des séries comme les Monkees à la TV. Et le rock'n'roll était dans les publicités. Il était partout. Mais c'est ça, c'était plus juste une mode, c'était un mode de vie et on l'exploitait. Mais c'était aussi... Donc, certains des films étaient faits pour vendre des soundtracks, certains films étaient faits pour les bonnes raisons, d'autres pour les mauvaises raisons. Et c'est un peu de ça qu'on va discuter. Donc, la conférence est de 5 à 7 heures, donc de 17 heures à 19 heures à la Cinémathèque québécoise. J'aurai des extraits vidéo, des exemples. Donc, on va regarder l'histoire du rock'n'roll. Puis moi, je pars du début du rock'n'roll. Donc, je pars de 1951 et je me rends jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à aujourd'hui?
Après ça, à 19 heures, vous allez avoir un zap-in party qui dure 2 heures, et ça, c'est DJ XL5, et c'est moi qui réfléchis sur l'histoire du rock'n'roll et qui vous montre des extraits de films ou de bandes-annonces que j'ai choisis, qui me tiennent à cœur. Et je vous dirais que comparativement à d'autres zap-in party, celui-là, il est plus proche d'un mixtape. Que d'un zap-in party. J'ai plus d'enchaînement que j'en ai d'habitude. J'ai moins de ruptures de ton. J'ai travaillé beaucoup à l'enchaînement des pièces. Okay. Et ceux qui me connaissent, DJ XL5 est né d'une volonté de faire des mixtapes, puis d'amener les mixtapes au cinéma en mettant bout à bout des courts-métrages, comme je le faisais quand je faisais des cassettes à mes amis. Donc, ça reste une job de DJ, puis une job d'enchaînement, de rythme et de faire danser le public, puis s'assurer que tout le monde danse. C'est un peu ça que j'essaye de faire. En même temps, le rock'n'roll zap-in party, c'est mon dernier pour un moment. Je ne ferai plus de zap-in thématique pour un certain temps.
Ah ouais.
J'ai touché à tous les sujets qui m'intéressent. J'ai touché à l'Inde, l'Italie, le Mexique, le zombie, le Blaxploitation,
les super-héros. Là, tu boucles la boucle, justement.
Fait que pour l'homme, j'ai pas le goût de me taper des films du Ghana pendant 2 ans pour essayer d'en faire un zap-in party, tu sais. Je suis méchant, là, mais c'est une métaphore. c'est une métaphore. Ceci dit, dans 2 ans, je vais peut-être avoir une idée. Mais en même temps, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être faire des zap-in de 10-12 minutes. Un truc avec des poursuites automobiles, mais juste 10 minutes que je pourrais mettre d'un autre show.
Ouais.
Donc, pour le moment, je me vois plus faire dommage à des genres, à des pays ou à des styles cinématographiques. Pour le moment, c'est mon dernier, puis je suis à l'aise parce que c'est une boucle que je boucle sur mon enfance, sur ma vie, parce qu'en quelque part, c'est le zap-in party qui est le plus proche d'être dans ma tête.
Ça, c'est l'ultime.
L'ultime. C'est pour ça qu'on a choisi un peu ce film-là ce soir, parce qu'en même temps, c'est un film entre 69 et 86, personne ne l'a vu.
C'est vrai, il est encore à ce jour pas très connu, et pour les intéressés, il se retrouve sur un très beau coffret Criterion qui regroupe plusieurs films de la BBS, justement, dont Ed.
Puis il y a aussi l'édition Rhino, 3 CD, 2 CD, 3 DVD. Il est trouvable. Puis
il est sur YouTube.
Faites le regarder. Mais regardez-le avec patience. Regardez-le avec tout ce qu'on a dit ce soir. Puis j'espère qu'on vous a pas découragé parce que c'est un film qui est très dur.
Avec plein de drogue. Prenez-le avec plein de drogue.
L'alcool, des femmes, let's go.
Exactement. Merci beaucoup, Marc, David.
Merci beaucoup.
Merci.
Je vous aime. On va l'écouter, évidemment, la trame sonore de Head.
Hey, hey, we are the Monkees. You know we love to please. A manufactured image with no philosophies.
We hope you like our story, although there isn't one. That is to say, there's many. That way, there is more fun.
You've told us you like action and games of many kinds. You like to dance, we like to sing, so let's all lose our minds.
We know it doesn't matter, because what you came to see is what we'd love to give you and give it 1, 2, 3.
But it may complete you 1, 2, or jump from 9 to 5. And when you see the end in sight, the beginning may arrive.
For those who look for meanings, inform as they do fact, we might tell you one thing, but we'd only take it back.
Not back like in a box back, not back like in a race, not back so we can keep it, but back in time and space.
You say we're manufactured, to that we all agree. So make your choice and we'll rejoice in never being free.
Hey, hey, we are the Monkees, we've said it all before. The money's in, we're made of tin, we're here to give you more.